France Musique. Musique et moi.
François Berléand.
Priscille Lafitte. France Musique.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Le cancre.
Un jour, mon prince viendra. Un standard tiré tout droit du dessin animé de Disney, Blanche-Neige, et dont s'empare le pianiste de jazz Tigran Amassian. Un titre qui dit que tout peut arriver quand on est enfant. Rien n'est écrit. Cette magie de l'enfance rejoint le poème « Le Cancre » de Jacques Prévert, que vous avez lu en tout début d'émission, François Berléand. On peut être pris de fou rire face au tableau noir, comme dit le poème. Le piano de Tigran Hamasyan vous décoche aussi un sourire? Il suscite un peu de bonheur, de ce bonheur-là, chez vous?
Oui, et puis en même temps...
Il rejoint l'enfance?
Oui, il rejoint l'enfance, mais aussi il y a beaucoup d'émotions, parce que je trouve que je ne sais pas en quel mode, parce que c'est en mode mineur quand même, la façon dont il joue. Et du coup, il y a à la fois, évidemment, Mon prince viendra, et puis en même temps, il y a un peu de Satie, un peu de... Il a une façon de s'accaparer ce morceau qui est absolument magnifique. Moi, je me souviens, j'avais entendu ça sur une radio, et je suis allé immédiatement acheter le CD, parce que ça s'appelle Fable, d'ailleurs. Enfin, Fable. On peut le dire Fable, oui. D'ailleurs, puisque c'est le même mot. Et voilà. Et tout le disque est absolument extraordinaire, à part deux morceaux qui n'ont aucun intérêt. Mais sinon, lui, c'est un pianiste absolument extraordinaire. Non, parce que il est arménien, et donc il y a quelquefois des morceaux.
Qui vous parle moins?
Pas spécialement par rapport à l'Arménie, mais c'est simplement, il y a une orchestration. On se dit, mais pourquoi il a fait une orchestration aussi lamentable que ça? Et donc, voilà, c'est dès qu'il est tout seul au piano, c'est magique.
Sa mission prolifique. Merci d'avoir accepté l'invitation, François Berléand.
Merci à vous.
De venir révéler votre facette musicale dans Musique et moi. Vous êtes donc acteur de cinéma et de théâtre, un acteur césarisé. Et dans votre prolifique carrière, on retrouve plusieurs fois, que ce soit dans des pièces ou dans des films, la musique. Elle est parfois même l'actrice principale. Dans Les Choristes, bien sûr, pour le plus connu du grand public, mais aussi Le Joueur de violon, du réalisateur Charles Van Damme, en 1994, sélection au Festival de Cannes. Le concert de Radu Mihaileanu, dans lequel vous jouez le directeur du Théâtre du Châtelet, puis vous avez déjà fait des lectures d'un texte de Gogol, aux côtés du trio Helios, qui jouait un des trios d'Aaron Arensky. Et puis, vous êtes très bientôt à l'affiche d'une pièce, 88 fois l'infini, 80 comme 88 touches, au Théâtre des Bouffes Parisiens, compté du 1er octobre. Et cette pièce vous met en scène aux côtés de Neil Sarestroop, dans un face-à-face entre deux demi-frères. Et dans un recoin de la pièce trône un piano, qui se révèle être central, au moins dans la vie d'un des personnages. Vous êtes donc un comédien mélomane. À tel point que cet instrument, je crois, vous êtes très familier, le piano. Vous en jouez?
Oui, alors très très mal. Hein. J'en joue très très mal. Et j'ai même un piano qui peut jouer pour moi. Il est tout seul. Donc vous voyez comme quoi... j'aurais peut-être pu faire une carrière de pianiste si j'avais commencé plus tôt, mais j'ai commencé à 12 ans. Et ma grand-mère m'a très généreusement offert son piano. Mais c'était trop tard, quoi. 12 ans, on peut pas commencer le piano et en faire une carrière.
Nous allons entendre beaucoup de piano ce matin. Oui, mais aussi du violon. Oui. Parce que vous avez grandi dans une famille de musiciens et vous comptez parmi vos aïeux un violoniste de renom, Léonide Kogan. Il s'agit de votre grand-oncle.
Voilà, c'était mon grand-oncle, absolument. Thank you.
Léonid Kogan dans La Chaconne de la deuxième partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. François Berléand, vous descendez donc d'une famille d'artistes juifs russes, arrêtez-moi si je me trompe, oui. Par votre père, voilà. Une grand-mère comédienne, mm-hmm. Un grand-père metteur en scène, voilà. Rédacteur en chef d'une revue théâtrale. Oui. Et Léonid Kogan s'insère où dans cette généalogie?
Alors du côté de ma grand-mère, voilà, c'était son cousin germain. Alors c'est pas tout à fait un grand-oncle, mais enfin c'était son cousin germain. Donc voilà. Et j'ai eu la chance d'assister à un concert, d'aller le voir à Pleyel. Et quand il, parce que c'était très rare, c'était un violoniste soviétique, hein, donc il est, mais comme il était soviétique, il était professeur au conservatoire de Moscou, donc il avait l'autorisation d'aller et venir, mais enfin pas très souvent, mais quand même malgré tout, il allait dans les villes européennes.
Et comment on parlait de lui à la maison? C'était l'objet d'une mythologie familiale?
Non du tout, pour la bonne raison que ma grand-mère. C'est très étrange, mais moi j'ai appris que ma grand-mère était comédienne une fois qu'elle était morte et une fois que j'ai voulu me lancer dans ce métier. Et donc pour tout, ma grand-mère avait pour mission de ne rien dire, de ne pas parler de son mari qui avait été déporté et de ne pas parler russe avec nous. Donc parce que ma mère étant française, il s'agissait pas pour nous de pouvoir nous exprimer dans une autre langue, dans une langue que ma mère ne comprendrait pas, quoi. Donc c'était assez particulier, mais
donc
il y a eu
un secret. Elle ne parlait pas du tout de sa famille.
Du tout. Et quand, je vais avoir 10, 12 ans, quand on est allé à, ou 13 ans, à Pleyel, pour voir donc Léonid Kogan, et ma grand-mère n'y était pas. Alors que c'était son cousin germain, c'était mon père y était, mais pas ma grand-mère.
Mais on vous avait quand même amené à ce concert dans le but de vous introduire à quelqu'un de la famille.
Non, mais voilà, ou... tu vas voir Léonid Kogan, etc. Et c'est après, dans la voiture du retour, que mon père a dit c'est le cousin germain de ta grand-mère. Et ah bon, ben voilà, c'est comme ça. Puis à l'époque, on posait pas de questions. Là, c'est comme ça. Puis de toute façon, il y avait un non-dit dans cette famille du côté paternel qui était absolument incroyable. Mais voilà, c'est comme ça.
Donc on écoutait quand même, on était mélomanes par votre père.
Oui, mais à l'époque, il y avait très peu, parce que c'est des disques... Alors on avait 2-3 disques de Léonid Kogan, mais c'était... comment ça, Maison du Monde. C'était soviétique, c'était une imprimerie soviétique qui imprimait les disques.
C'est les Chants du Monde.
Les Chants du Monde, voilà, les Chants du Monde. Et donc j'avais 3 ou 4 disques de Léonid Kogan, mais pas plus, j'avais pas plus à l'époque.
Dont la Vanesse de Saint-Saëns.
Voilà, dont la Vanesse, disque orange. Thank you.
Leonid Kogan, accompagné de l'Orchestre Symphonique de Boston, dirigé par Pierre Monteux, François Berléand. Il y a donc cet enregistrement chez vous. Il allait souvent sur la platine, ce vinyle-là, sans plus d'explications ?
Il allait tout le temps sur la platine, tout le temps. Et là, j'ai une anecdote assez rigolote, parce que j'étais invité chez un ami qui faisait une petite... Enfin, qui faisait une fête chez lui, on avait 20 ans, à Antony. Et donc, on était... À l'époque, on pouvait pas rentrer, donc on était obligé de dormir là-bas, etc. Et après une nuit blanche, arrosée, etc., 7h du matin, mais France Musique, vous voyez, c'est comme quoi, hein. Et il y a ce morceau qui est interprété, justement, par Leonid Kogan, qui se... Et j'étais à côté d'une fille que j'essayais de draguer depuis un certain temps, et j'entends, on entend évidemment la musique, etc., ça s'arrête, et je dis, ah bah tiens, La Havanaise de Saint-Saëns, jouée par Leonid Kogan. Et
le moment-là,
évidemment, tout le monde fait « Oui !» Et vous venez d'entendre La Havanaise de Saint-Saëns, interprétée par Leonid Kogan. Et donc, cette jeune fille m'a regardé d'une autre façon. Et ça a été formidable.
Est-ce que ce morceau vous intéressait quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous en entendiez?
Alors justement, non, c'était pas quand j'étais enfant, c'était, enfin, je commençais à être adolescent, quoi, parce que ça, c'est vraiment, ces disques-là, j'ai eu accès une fois avoir vu Kogan, et on a acheté, je crois, les 10, d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, à Pleyel, je crois qu'ils étaient en vente, je parle de ça, je parle des grands disques, les 33 tours, hein, c'était l'époque des 33 tours, on pouvait pas
c'est avoir volumineux,
plus petit, il n'y avait pas de cassette à l'époque.
Ouais. Oui. Il y avait un piano chez vous ?
Il y avait un piano, mais c'était dans ma chambre, c'était un gaveau droit, oui, que ma grand-mère m'avait laissé.
Ah, pourquoi dans la chambre plutôt que dans le salon ?
Parce qu'il y avait moi qui en jouais, et qu'elle me l'avait donné à moi, donc c'était mon piano. C'est, donc il n'était pas question qu'il aille autre part que dans ma chambre.
Parce que votre grand-mère était pianiste.
Voilà, ma grand-mère...
Donc maternelle, cette fois.
Maternelle, pour le coup, oui. Était premier prix de conservateur de piano. Et elle aurait certainement pu faire une carrière de concertiste, mais malheureusement, elle a eu un accident de... Pardon, mais de charrette. Donc voilà. Mais oui, à l'époque, oui, c'est ça. On parle d'un temps, nous aussi. Donc elle était jeune, à 20 ans. Oui, et du côté de la rue des Martyrs. Et justement, c'est une charrette qui a versé dans la rue des Martyrs. Elle est très pentue. Et il s'est trouvé qu'elle était là à ce moment-là et que... sur la main droite, c'est ça, sa main droite a été écrasée, donc elle jouait, elle pouvait jouer, mais pas, bon, enfin, c'était pour elle, quoi.
Quel était son nom ?
Stéphanie Adam, ce nom de jeune fille.
Ce n'est pas votre grand-mère, Stéphanie Adam, qui joue ce rondo à la turque de Mozart, mais Vladimir Horowitz, oui, en concert. Mais elle vous a quand même appris à le jouer, ce morceau-là.
Oui, oui. Non. Alors, c'est pas elle, mais c'est mon prof de piano de l'époque, qui s'appelait Madame Jacquineau. Et ça, j'étais arrivé jusque-là, jusqu'à ce morceau. Et j'avais en disque Gabriel Taquino, qui était à l'époque prof au conservatoire. Je ne sais même pas si... Oui, prof au conservatoire. Donc, c'était un Français. Et il jouait ça à toute vitesse. Et un jour, je suis tombé sur Horowitz. Et du coup, j'ai...
Le tempo, vous allez mieux ?
Oui, ouais. Le thème, mais c'était tellement plus lent, quoi. Et tout à coup, il y avait toutes les notes qui venaient, etc. Et moi, je jouais pareil. Enfin, je jouais pareil. Non, je jouais pas comme Taquino, parce que j'ai pas le talent. Mais je jouais à toute vitesse pour me dire, yeah, j'y arrive. Or, c'est tellement beau quand c'est joué plus lent, dans un tempo plus lent que, voilà, c'était, donc pour moi, ça a été une révélation. Et puis, je me souviens, alors j'ai une petite anecdote comme ça, bébête, que je vais vous raconter au fil de l'émission, mais, donc j'avais ce piano qui était dans ma chambre, et en face de...
Vous habitiez Paris?
Oui, j'habitais Boulogne. Et, il y avait un immeuble qui était en construction, et donc ils en étaient arrivés à mon étage, donc les ouvriers faisaient leur boulot, puis à un moment donné, moi j'en pouvais plus, parce que ça faisait un boucan, et à un moment donné, ils arrêtent un petit peu, et du coup je mets le disque et je me mets au piano et je fais comme si c'était moi qui jouais, etc. Et à la fin du morceau, donc il y a les applaudissements et je me suis levé et je les ai salués. Ils m'ont regardé. J'en riais encore parce que c'était vraiment, ils étaient totalement interloqués. Si j'avais su qu'un jour j'en ferais mon métier de un métier qui
où qui on peut être sous les applaudissements.
Oui, donc c'est voilà, c'était rigolo. Et en plus cette marche turque, c'était en fin de compte le premier morceau sur lequel je suis monté sur scène. Donc j'étais en 11e, enfin en CP maintenant, on dit CP. À l'époque c'était 11e et c'était spectacle de fin d'année. Et à l'époque, c'était garçon, l'école de garçons, et puis l'école de filles, c'était à côté. Donc, il y avait la marche turque. Et donc, on était dans un cinéma de quartier. Et on jouait, on était sur scène. Et moi, j'étais en tutu, j'avais honte avec un, je sais pas quoi, une espèce de flambeau. Enfin bon, et on était en fille. Moi, j'étais en fille. J'avais honte, la honte de ma vie. Parce qu'évidemment, la moitié de la classe était en garçon et l'autre moitié en fille. Et moi, j'avais été choisi en fille. Et j'avais mes hontes, mais enfin bon, voilà. Donc,
il y avait une chorégraphie sur ce rondo,
oui,
oh,
enfin, oui, enfin, imaginez, on s'est payé, la chorégraphie n'était pas très... Enfin, on faisait une espèce de ronde, quoi, voilà. Thank you.
Samson François, à la Salvagramma en décembre 1968, dans la sixième polonaise de Chopin, la polonaise héroïque. Et vous avez vu François Berléand, Samson François, en concert, peut-être pas ce concert-là.
Ah non, pas celui-là, non. Non, moi j'avais vu à Chaillot, avec ma grand-mère, donc Stéphanie, qui m'avait emmené le voir. Et là, j'avais été bouleversé par sa technique, par sa façon de jouer surtout. C'est allez, moi j'ai alors bon mon petit niveau idiot là, mais à l'époque les Français, il y avait une façon de jouer à la française. On mettait une pomme et puis on ne devait pas faire bouger la pomme, etc., etc. Inutile de vous dire quand on joue une polonaise que la pomme on fait de la compote quoi. Mais et je me souviens, j'étais fasciné par le. Parce que lui faisait pas de grands mouvements de mains, etc. Il était agrippé à son piano. Et enfin, après, à la fin du concert, bon, moi j'étais emballé, etc. Et ma grand-mère me dit, mais qu'est-ce que tu en penses quoi de ce que tu as vu? Alors, je sais pas, je trouve ça bien, mais j'avais pour moi la pomme. Et j'ai dit, mais j'ai l'impression, je sais pas, il joue bizarrement, il chasse. Et je sais pas pourquoi je dis il chasse. Alors, il m'a dit, comment ça veut dire quoi, il chasse? Ben, il dit, mais la pomme, elle peut pas rester. Et là, elle a éclaté de rire. Et elle m'a dit, ben, on va lui dire qu'il chasse. Puis après, elle m'a expliqué, non, la pomme, c'est au départ, c'est pour avoir une façon de mettre sur le clavier. Mais après, tu, faut enlever la pomme. Il y a pas, on s'en fiche de la pomme. Après, c'est toi qui joues et tu interprètes comme tu veux.
Donc, elle vous a un petit peu enseigné le piano, cette grande...
Non, pas vraiment, parce que le problème, c'est son accident a fait que elle avait honte de jouer devant qui que ce soit et donc de donner des conseils. Et c'était très étrange, parce qu'une fois, j'étais allé la retrouver, parce que moi, j'aimais bien discuter avec elle, donc après l'école. Et puis, elle habite au sixième étage, donc et j'entends le piano d'en bas. Et je me dis, c'est elle qui... Ou c'est un disque, etc. Et puis non, je reconnais le piano, je reconnais... Et c'est elle qui jouait. Je suis resté un quart d'heure derrière la porte pour...
Voilà, pour le piano de votre chambre.
Oui, mais là, c'était chez elle encore. Le piano était encore chez elle. Et j'ai sonné à la porte. Et donc, j'ai entendu le piano s'enfermer. Et elle a ouvert, parce qu'il y avait un truc pour les disques, son pick-up exprès, enfin son, elle a ouvert, j'ai entendu tout se mettre en marche, etc., puis l'enlever. Elle fait, ah bah tu es là, oui, j'écoutais un morceau de... Donc, pour pas...
Elle avait fait semblant que c'était pas elle qui jouait.
Et j'ai dit, mais c'est toi qui jouais. Non, je peux plus jouer.
Bah, comment avez-vous la certitude que c'était elle qui jouait?
Ah, parce que j'ai reconnu le piano.
Ah oui.
Et puis il y avait des petites fautes, il y avait des petites... Donc c'était... Voilà, j'ai vécu dans le mensonge de ma grand-mère qui mentait. Non mais enfin voilà, non, c'était terrible. Enfin ça m'a énormément ému et choqué. J'étais triste pour elle, quoi. Parce que je me disais, mais elle aurait pu jouer, enfin elle aurait pu continuer à jouer sur ce piano. Et elle me l'a donné en plus, peut-être un an ou deux ans après.
Elle vous a amené au concert.
Oui, elle m'a même amené au festival de Salzbourg. Et je peux vous dire que c'était quelque chose.
Vous avez vu quoi?
J'avais vu Don Juan, j'avais vu Così fan tutte, et puis beaucoup de concertos, de symphonies.
Ouais. Donc quel genre de compagnon a été pour vous le piano dans l'enfance?
Ah, c'était merveilleux pour moi. C'était... Il y avait quelque chose, je sais pas, j'ouvrais le piano, je savais pas en jouer, mais le son qui sortait, il y avait quelque chose qui me... Voilà, alors je jouais et puis après j'ai joué des petites chansonnettes, mais bon, à une main évidemment, parce que je savais pas. Puis quand j'ai pris les cours, tout à coup ça m'a ça m'a plu, ça m'a bouleversé. Et ce qui est bête, ce qui est bête, non, c'est aussi bien comme ça, mais je suis sûr que si j'avais commencé beaucoup plus tôt, j'aurais pu vraiment accéder à... Alors peut-être pas être un grand concertiste, loin de là, mais j'aurais pu, je crois, bien jouer en tout cas du piano et j'aurais pu m'amuser.
Thank you.
Extrait du premier mouvement du 20e concerto de Mozart en ré mineur. Sviatoslav Richter est au piano. Vous avez voulu qu'on entende spécifiquement la cadence. Alors vous allez nous expliquer pourquoi.
Eh bien, j'aimerais vous expliquer plutôt après. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le disque que j'avais chez moi, que j'écoutais de façon compulsive, comme tout ce que j'écoutais. Dès que j'avais un disque, je m'achetais un disque, je le mettais, etc. Et ce premier mouvement, c'est un mouvement tellement beau, enfin, tout le concerto en ré mineur, moi, dès que c'est un peu triste, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Et donc, j'ai écouté ce disque, je sais pas, 2000, 3000 fois, je sais pas, c'était tout le temps, enfin, c'était... Et puis, un jour, je vais chez des amis, et donc, ils mettent... à l'époque, on mettait beaucoup de musique classique. Enfin, en tout cas, chez les gens chez qui j'allais, donc c'était des amis très proches, on mettait de la musique classique. Et donc, on met de la musique classique, on met le concerto numéro 20 de Mozart, et mais interprété par Clara Askill. Et là, tout d'un coup, je ne comprends plus rien. À l'époque, moi, je ne connaissais pas le système des cadences.
Écrites, pas écrites, etc.
Et donc, pour moi, le concerto numéro 20, c'était ce concerto numéro 20. Et puis, c'était la même musique qui devait avoir lieu à chaque fois, quoi. Eh ben non. Et donc, j'ai
appris. C'est la joie des cadences.
C'est la joie des cadences. Mais ça, je ne savais pas. Et qu'effectivement, c'était lié un peu à. L'improvisation, voilà, puisque c'est un moment qui était justement s'appropriait le et surtout Mozart, puisque c'est Mozart qui jouait ce concerto et qui la première fois improvisé une cadence à laquelle on ne sait pas, mais il l'avait pas écrite justement.
Oui, et Clara Askill s'est effectivement approprié au point d'écrire sa propre cadence.
Sa propre cadence, voilà.
Alors François Berléand, vous avez une préférence, on va jouer à la tribune des critiques de disques, vous avez une préférence entre la version Richter qui joue la cadence de Beethoven et puis la cadence de Clara Askill?
Ah, j'ai une grande préférence pour le Clara Askill, oui. Non mais c'était surtout ma stupéfaction la première fois que j'ai entendu quelque chose d'autre quoi, que le concerto numéro 20 que je connaissais par cœur. Quoi. Donc c'était... Pour moi, enfin, quand on m'a expliqué que le principe de la cadence, que ça a été vraiment, enfin, des cadences, voilà, je comprenais toujours pas. J'ai dit, mais il y en a quand même, Mozart a quand même écrit, non, une cadence. Non, non, c'est pas justement, non. Et, mais pour moi, celle-là, elle est vraiment, d'ailleurs, j'ai acheté immédiatement le disque, encore une fois, les CD n'existaient pas. Et après, je mettais plus que celui-là, quoi. C'était, et tout Clara Askill, j'ai acheté tout Clara Askill, enfin, tout ce qu'elle a, tout Mozart. Oui, parce que c'était un grand combat entre mon frère et moi. Mon frère était plus âgé que moi, et lui c'était Beethoven. Et comme je me suis un peu construit contre mon frère, enfin contre mon père, mais contre mon frère aussi, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que... Mais moi j'étais gamin, hein, j'avais 8-9 ans. Et puis le premier morceau qu'on m'a offert, donc c'était la marche turque, Taquino, et je dis, bon bah Mozart, allez hop. Et donc Mozart, mais évidemment Beethoven c'était plus puissant, et je me souviens, quand j'ai acheté ce concerto numéro 20, donc par Richter, je vais voir mon frère, je dis, viens, viens là, regarde, écoute ça. Et donc je lui fais écouter, et notamment la cadence de Beethoven, parce que c'était ça, et j'ai regardé, regarde Mozart, c'est pas... Hein,
c'est pas mal.
Et c'était Beethoven, donc voilà, c'était rigolo.
Vous pratiquez le piano aujourd'hui ou pas?
Oui, oui, toujours. Très mal, toujours très mal. Hein. Très mal. Et alors, j'ai pris une application, parce que moi, je ne sais pas lire le solfège, hein, c'est une catastrophe. Si je déchiffre, ça prendrait un an pour une ligne, une portée, donc c'est pas la peine. Et donc, il y a une application, on met son téléphone comme ça, et puis on a le doigté, on a les notes, on peut l'arrêter, donc on fait... Et puis, donc j'ai retrouvé comme ça des... Parce que j'ai laissé mon piano à ma fille aînée, et en fin de compte, je me suis racheté un piano il n'y a pas longtemps et voilà, je me suis remis.
Et alors, vous jouez plutôt Mozart ou Beethoven?
Pour l'instant, je suis plus dans le jazz, là. Je suis plus dans, j'essaye de, moi, plutôt Bach, pour le coup, mais j'essaye de m'en remettre. Et sur le prélude numéro 1, c'est pas difficile. Et j'essaye petit à petit de me retrouver les inventions. Enfin, tout ce que j'avais un peu joué, mais j'ai plus les doigts, quoi.
Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le pianiste d'ambiance? De Charlie Lee Couture, que vous avez souhaité qu'on écoute.
Oui, oui, parce que je trouve que faut bien écouter les paroles de cette chanson. Je suppose quand on fait le conservatoire de musique ou quand on a un peu de talent, etc., on arrive à un stade, soit on est très connu, comme par exemple Philippe Cassard, soit on n'est pas connu et on devient un pianiste d'ambiance. Et en fin de compte, au départ, ils ont travaillé autant, quoi. Et puis, à un moment, il y a le talent ou pas, ou la chance.
J'ai longtemps été fasciné par les pianistes d'ambiance. Un type qui traîne au fond d'un grand restaurant chic ou des films américains de l'entre-deux-guerres. Un type que personne n'écoute et qui sert surtout à camoufler ce qui se dit à la table à côté. Avec style et plus de classe qu'un jukebox. Celui qui fait semblant de se moquer de l'indifférence générale et qui joue pendant des heures. Et la famille est fière de le citer parce que c'est l'artiste de la famille. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait plus trop quoi dire d'autre et on sort des séries d'évidence, des gros lieux communs comme il est gentil, mais c'est comme tous les artistes, il est feignant. Peut-être vrai quelquefois. Hormis ceux qui ont réussi, alors là on dit, vous avez dû travailler beaucoup pour en arriver là. J'ai longtemps voulu être celui qu'on regarde avec un petit sourire plein de circonspection, parce qu'on le trouve étrange. Il est pas comme tout le monde. Celui qu'on comprend pas bien, celui qu'on fait semblant de pas voir quand on le croise, parce qu'il colle pas avec le décor, parce qu'on a peur de tout ce qu'on connaît pas, de tout ce qu'on comprend pas, parce que les étrangers qu'on préfère encore, c'est les étrangers de couleur, parce qu'on les repère de loin.
Les pianistes d'ambiance de Charlie Couture figurent dans l'album Pochette Surprise en 1980.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le comédien François Berléand est l'invité de Musique et moi ce matin. Et vous, vous avez dû travailler aussi pour en arriver là. Vous auriez peut-être souhaité devenir pianiste, vous voulez interprète de texte.
Oui, parce que je suis feignant. Bon. C'est ce qui se dit dans la chanson. Là. Moi, je pense toujours qu'on est les... Enfin, si on est considéré comme des artistes, enfin interprètes, on est les plus feignants, nous, des artistes interprètes. C'est-à-dire qu'un pianiste, un violoniste, un musicien, il va travailler ses gammes, il va travailler une heure, deux heures, trois heures, quatre heures par jour. Nous, on ne peut pas travailler des gammes. On peut faire travailler la mémoire, on peut faire travailler des choses, etc. Notre métier, c'est de regarder les gens, de voir, de prendre. C'est quand on est jeune. Après, on a sa propre personnalité, puis on arrive à...
C'est comme un travail sur la voix aussi.
Oui, il y a un travail sur la voix. Oui, mais... Non, on n'est pas des chanteurs non plus, donc c'est pas vraiment.
Vous pensez pas en termes de projection de voix?
Non, du tout. Mais si vous voulez, la grande différence qu'il y a entre un acteur qui n'est pas connu et un acteur qui est connu, c'est la chance. C'est uniquement ça. Alors il y a un peu de talent évidemment, mais il y a beaucoup, de comédiens, d'amis que chers qui ne sont pas connus et que je trouve bien supérieurs à moi au niveau du talent. Donc il faut de la chance dans ce métier après tout à coup la chance de rencontrer un rôle qui marche et puis moi vous savez c'est très rigolo mais j'ai commencé par le théâtre subventionné, j'en ai fait pendant 25 ans et puis ensuite j'ai eu la chance de faire un film qui a marché et puis tout à coup je suis devenu un peu connu et je suis retourné au théâtre avec des rôles importants parce que j'étais connu au cinéma.
Et vous avez quand même le chic de figurer dans des pièces ou des films où la musique joue un rôle central. Je l'ai dit en introduction, vous citez les choristes, le joueur de violon, le concert de Radu Mihailianu dans lequel vous jouez le rôle du directeur du théâtre du Châtelet. Vous le faites exprès de choisir... des pièces, des films où la musique va apparaître ou va être...
Non, mais en tout cas, quand il y a de la musique, moi, ça me plaît. J'ai inventé quelque chose au sujet justement du concert. Donc, je vais chez Radu. Il me dit, écoute, je pense que je vais prendre le concerto... Enfin, je prends le concerto de Tchaïkovski pour violon et je prends l'interprétation d'Oestreich. Et je lui dis, ah bon, tu connais pas celle de Kogan? Évidemment, c'est la famille avant tout. Et parce que justement, il avait besoin d'un violon qui pleure, quoi, parce que c'est à propos du film. Et il dit, non, ce que je travaille, c'est vraiment bien. Je dis, mais écoute quand même celle de Kogan. Et quand il a écouté celle de Kogan, il a dit, ah mais elle est vraiment... Elle est mieux, elle correspond plus à... Et donc, la jeune femme qui a, je sais plus son nom, qui a interprété le concerto, s'est inspiré beaucoup de Kogan.
Et vous avez également lu un texte de Gogol, Le Manteau, aux côtés du trio Helios, qui interprète le premier trio d'Aaron Arensky. On l'écoute ensemble ?
Ah oui.
Thank you. Le premier mouvement du trio pour violon, violoncelle et piano d'Aaron Arensky, le premier trio en ré mineur, Yefim Bronfman au piano, Cho Liangling au violon, Gary Hoffman au violoncelle. C'est donc une découverte que vous avez faite en travaillant ce texte
de Gogol. Oui, tout à fait. Donc c'était le trio Helios, qui est un trio absolument magique. Ce sont des jeunes qui sont sortis du conservatoire et qui se sont mis ensemble. Et
vous écoutez cette musique pour pouvoir travailler le texte, par exemple?
Non, parce que je savais pas. Moi, là, pour le coup, je savais pas. C'était en première partie. Donc, j'ai découvert, moi, dans le théâtre d'Ardelot, qui est un théâtre absolument sublime, théâtre élisabétain, c'est le seul qui est en France. Et j'ai entendu, d'ailleurs, je sais même pas qui était Arensky, je connaissais rien. D'ailleurs, je connaissais pas très bien les trios, mais là, et ça a été pour moi une révélation. Donc, du coup, je me suis acheté plein de trios de Schubert et Arensky évidemment et j'écoute ça, je trouve ça mais d'une beauté mais incroyable, parce que pour moi le piano c'était piano et orchestre ou piano tout seul, mais pour moi ça n'allait pas avec un violon, violoncelle, parce que ça ne m'intéressait pas, et là tout à coup j'ai trouvé ça absolument mais vraiment magique. Je trouve ça formidable.
Alors, dans la pièce que vous travaillez en ce moment aux côtés de Nils Arilstrup et que vous allez donner tout bientôt à partir de début octobre,
oui,
il y a un piano sur scène.
Voilà.
Mais vous n'êtes pas le pianiste des deux. C'est Nils Arilstrup,
le
demi-frère.
Le grand pianiste, grand compositeur, etc. Et il a un piano. Alors c'est très étrange pour ceux évidemment Nils Arilstrup ne joue pas de piano. Donc ça va être difficile pour lui de jouer, de montrer quelque chose, etc. Donc tous les sons qui vont être produits par le piano sont des sons qui seront enregistrés, pour la bonne raison que ce piano est un piano de 1800 et quelques, donc cadre bois, il y a des touches évidemment, mais il n'y a plus de cordes. Donc c'est assez particulier de toucher des notes qui ne font pas de bruit, quoi. Enfin, à part le bruit du bois, mais voilà. Donc c'est.
Et dans cette pièce, vous êtes amené à écouter un concerto de Shostakovich, le deuxième pour piano.
Voilà, l'Andante en plus, le deuxième mouvement.
Oui. Vous savez pourquoi? Qui a fait ce choix-là de musical?
Alors ça, c'est l'auteur. C'est l'auteur qui a.
Isabelle Le Nouvel qui a.
Qui aime le concerto numéro 2 de Shostakovich. D'ailleurs, c'est assez épouvantable, parce que je dis rejoue-moi à Andrew, mon demi-frère, je dis rejoue-moi ce morceau que t'as joué la première fois pour moi, et lui dit un tire-larme. Non, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais non, même lui, Shostakovich, pensait que c'était nul, etc. Alors il va le jouer ou pas le jouer. Bon, après, faut venir voir la pièce.
Et vous, François Berléand, vous pensez que c'est un tire-larme? Ou que c'est.
C'est entre les deux pour moi. Enfin, moi, je trouve ça très beau, mais c'est un tire-larme aussi, donc voilà.
Thank you.
L'andante du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Dmitri Shostakovitch. Le compositeur est lui-même au clavier. Il est accompagné de l'Orchestre national de la radiodiffusion française, dirigé par André Cluytens. Vous ne la connaissiez pas, cette version-là ?
Si ? Non, du tout. Mais j'ai le disque, évidemment, mais ce n'est pas le morceau que j'écoute le plus dans le disque. C'est pas... Je trouve ça un peu...
Oui, ouais. Bon, oui, les premiers et troisièmes mouvements sont, voilà, sont plus denses.
Oui, ils sont... Ouais, ouais. Mais bon, il fallait un truc un peu... Un tire-larme, je demande, donc...
On n'a pas encore écouté de voix jusqu'à maintenant, François Berléand.
Ah bah si, on a entendu quand même Charlie Couture.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai, mais qui chantait très peu, qui chantait juste
c'est
la fin.
C'est vrai qu'il parle plus.
Ouais,
que...
ouais, ouais. Ouais. Comme dernier choix, vous m'avez proposé Barbara. Quelle voix est-elle pour vous ?
Alors pour moi, c'est... voilà, c'est une... C'est la voix de la beauté, la voix de la tristesse, la voix de la poésie et la voix de la musique. C'est... La première fois que j'avais entendu Barbara, c'était Göttingen, et ça m'avait, mais c'est très étrange parce que j'ai écouté énormément d'opéra dans ma jeunesse. Les paroles n'ont pour moi aucun intérêt. Enfin, j'écoute la musique, j'écoute la voix, et avec Barbara, avec Brel, évidemment, Brassens, etc., enfin tous les... j'écoutais pour la première fois les paroles, mais sinon, les Beatles, je ne parlais pas anglais, donc je ne comprenais rien, les Stones, je ne comprenais rien, donc ouais, ça ne me gênait pas d'entendre des mots que je... Enfin, ça m'a... Je m'en foutais de ce que j'entendais comme paroles, ça ne m'intéressait pas. Et avec Barbara, ça a été vraiment une révélation. Brel et Barbara, ça a été les deux... Mais Barbara, j'aime...
Mais il y a une musicalité quand même.
Énorme, énorme.
Dans la voix.
Oui, oui, bien sûr, une petite cantate. Ouais. C'est un... Et puis, Nantes, voilà, par rapport à son père, qui a été si problématique pour elle, voilà, je trouve que faire cette chanson, écrire une chanson qui est presque la chanson du pardon, et bon, moi, c'est... À chaque fois que je l'écoute, ça me bouleverse. Et voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer une fois et ça avait été un... Je la trouvais tellement belle, tellement rayonnante, tellement... Et puis une force de la nature incroyable. C'était quelqu'un qui avait une énergie, qui ne dormait pas, qui était sans arrêt sur le qui-vive. Elle avait vécu une enfance difficile. Mais bon, elle s'est réfugiée dans l'art, la chanson, la musique, et merci pour, merci de nous avoir donné son talent.
Il pleut sur Nantes, le mois de mai, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a bien longtemps déjà, la ville avait ce teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Et ma femme, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était pâle et blanche du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre du jardin de pierre, je l'ai couché dessous les roses. Je veux que tranquille il repose. Mon père, mon père. Il pleut sur Nantes. Je me souviens, ce ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
Barbara, au Théâtre des Variétés en 1974, accompagnée par Roland Romanelli. Vous l'avez vu sur scène?
Oui, oui, oui.
François Berléand aussi.
Oui, oui. Je l'ai vu plein de fois sur scène. Je l'ai vu plein de fois parce que voilà, c'était mon artiste préféré. Alors il y avait Brel, mais Brel, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à avoir des places. J'ai jamais pu. Mais en même temps, bon, Brel, à chaque fois que j'écoutais un concert, je pleurais toutes les chansons. Toutes les chansons de Brel me font pleurer. Donc, il y a aussi peut-être pour ça que j'arrivais pas à trouver de place. Mais bon, Barbara, c'est pas, ça me fait pleurer aussi, hein. Mais bon, il y a quelques chansons quand même qui sont plus gaies. Mais voilà. Enfin bon, moi, c'est les deux grands artistes du XXe siècle.
Un grand merci.
Ben, merci à vous
d'être venu dans Musique et moi ce matin, François Berléand. Grand merci aussi à l'équipe qui a permis ce Musique et moi. Philippe Mercher à la technique, Marie Gros à la réalisation, Marie Ferdinand pour la préparation et la mise en ligne. Je rappelle qu'on peut vous voir au Théâtre des Bouffes Parisiens.
Voilà.
Dans la pièce 88 fois à l'infini.
Voilà, avec Lisa Restrop.
Lisa Restrop. Passez un très bon dimanche, François Berléand. Et à vous tous qui nous écoutez. Et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.